Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va non seulement avoir une mission, mais qui va se donner les moyens de la réaliser.
Sébastien Delafond cofonde Meilleurs Agents en 2008.
Le fonctionnement du marché immobilier n'est pas satisfaisant pour les particuliers. Ce marché est opaque, il y a un défaut de confiance entre les particuliers et les agents immobiliers. Donc il y a quelque chose à régler. De mon point de vue, j'étais en mission.
Son entreprise atteint 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et comptabilise plus de 350 collaborateurs. Elle est ensuite revendue à 200 millions d'euros en 2020. Comment trouver l'associé idéal pour son entreprise ?
Tu vas pas trouver les bons associés si t'es pas au clair sur ces deux points-là.
Il se confie sur l'erreur qu'il a commise avec son premier associé.
Je l'ai trouvé intelligent, je m'entendais bien avec lui, on rigolait bien ensemble, il était bosseur. Je lui ai trouvé 1000 qualités. Bon, il se trouve qu'au bout de 6 mois, ce gars-là m'a planté. Les 15 jours qu'on suivit cette annonce-là, j'étais au fond du trou.
Il te partage les clés pour attirer et recruter les meilleurs talents.
Si tu peux offrir ça à un candidat, tes chances d'attirer, de retenir, de donner envie aux meilleurs d'entre eux sont démultipliées.
Découvre sa méthode pour disrupter son marché dans un domaine auquel personne ne l'attendait.
Il faut que j'apporte deux choses super claires. Si j'ai pas ça au début ou pendant l'aventure, je vais aller nulle part.
Dans cet épisode, découvre comment définir ton business model, comment développer un mindset contre toute épreuve, pourquoi exploiter ton pouvoir émotionnel, quelles sont les stratégies pour recruter des top talents et comment perfectionner sa communication managériale. Peut-on révolutionner un marché dont on ignore tout ? C'est ce que semble croire notre invité du jour. Plus que de le croire, Sébastien Delafond, cofondateur de Meilleurs Agents, en a même tenté l'expérience. Précurseur de la data immobilière, cette entreprise construit un business à contre-courant du marché dès son arrivée en 2008, en réactualisant tous les prix des biens immobiliers en France. En 2019, Meilleurs Agents réalise plus de 26 millions d'euros de chiffre d'affaires, puis se revend à 200 millions d'euros en 2020. Aujourd'hui, Meilleurs Agents est la référence numéro 1 de l'estimation dans le monde immobilier français. En 12 ans, Sébastien a su traverser la crise économique de 2008 et la crise sanitaire de 2020. Il est resté debout face à des dirigeants qui cherchaient à lui mettre des bâtons dans les roues. Dans cet épisode, scindé en deux parties, tu découvriras la clé pour savoir si ton idée business est la bonne et quel comportement adopter face à tes peurs. Sébastien te dévoilera l'élément qui garantit ta réussite en lien avec ta mission et t'aidera à recruter les meilleurs talents. Car passer de 4 à plus de 350 collaborateurs en quelques années, dans un secteur d'activité qu'il ne maîtrisait pas pleinement, c'est plus qu'inspirant. Cette conversation regorge de pépites. Reste bien attentif et découvre l'élément clé de sa réussite. Bienvenue, tu écoutes Business Tribe.
J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « On voit bien que vous n'y connaissez rien ». On a attaqué le marché immobilier. Moi, j'y connaissais rien au marché immobilier. J'avais aucun repère. J'avais aucun contact. En revanche, j'avais la foi du charbonnier, c'est-à-dire que j'étais convaincu comme particulier qu'il y avait un problème. Et si j'avais été un expert dans ce secteur, on se serait jamais lancé pour faire ce qu'on avait en tête. Et la phrase « on voit bien que vous n'y connaissez rien », c'est ce que m'ont dit tous les professionnels, tous les gens très connectés, tous les gens très compétents, quand on a dit « ah ben tiens, vous savez, on veut faire la transparence sur les prix, on veut faire remonter les données des agents immobiliers, on veut permettre aux gens d'évaluer un bien en ligne en deux minutes », on a dit « attendez, tout ça c'est impossible, vous rêvez, on voit bien que vous connaissez pas le marché immobilier ». Moi je rigole, je me dis « bon, je me doute bien que c'est difficile, mais d'abord ça m'excite, ça c'est un moteur, je crois qu'un vrai entrepreneur, il se lève le matin parce qu'il a envie de régler un truc difficile. Si c'est facile, on n'y va pas, on se lève pas, on a autre chose à faire ». En revanche, si je suis face à un défi dont on me dit « mais tu sais, il est impossible à relever » et je me dis que si on le relève, on va arranger les bidons de 2-3 personnes, ça me donne une énergie folle. Je pars de la motivation cœur. Est-ce qu'il y a un vrai problème à régler et est-ce que je me sens en mission par rapport à ça ? À partir du moment où je suis là, on ne va pas m'arrêter parce qu'en fait, les compétences, je vais les trouver, toutes celles que je n'ai pas. On va réfléchir, on va être à plusieurs, il y a plein d'idées que je n'aurai pas mais les gens autour de moi les trouveront. À cœur vaillant, n'est rien d'impossible. Et quand tu es sur la bonne mission, on ne t'arrête pas.
J'ai écouté des podcasts et je t'ai trouvé super humain. Ça a été un coup de cœur en fait quand je t'ai écouté.
Ouais, c'est sympa, je suis ravi d'être là.
C'est quoi ton parcours et comment t'en es arrivé à créer Meilleurs Agents ?
Moi, j'ai eu plusieurs vies sur le plan professionnel. J'ai eu trois vies. J'ai eu une vie de banquier d'affaires, un peu par accident, entre les États-Unis et l'Europe, où j'ai appris à fréquenter toutes sortes de gens, dont des entrepreneurs. Je suis tombé amoureux des entrepreneurs, notamment dans la tech. Puis j'ai eu une vie de capital risqueur à Londres, où là j'ai investi des sous et j'ai accompagné des entreprises de croissance dans la tech. Et puis j'ai eu une troisième vie d'entrepreneur internet en France.
Et comment tu as trouvé l'idée de Meilleurs Agents ? Parce que je trouve que c'est pas facile en fait de bien choisir la bonne idée et parfois de pivoter jusqu'à trouver l'idée qui va marcher. De ce que j'ai compris, tu viens pas à la base du monde immobilier. Comment tu es arrivé à trouver cette idée-là ?
On va dire par accident, même si je ne crois pas aux accidents. Bon, quand je suis revenu d'Angleterre, d'abord, je pensais monter un fonds, un nouveau fonds de capital risque dans le domaine du développement durable. Je me suis rendu compte que ce n'est pas ça que je voulais. Après, j'ai eu l'idée de monter une entreprise qui allait fabriquer son alter ego digital pour partir à la découverte de soi-même et des autres. Et puis là, ça a été compliqué. Je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait pour monter ça.
Tu peux m'en dire plus, c'est quoi que tu voulais faire?
Ça s'appelait Minimi. Okay. Et le sujet, parce que comme tu le sais, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au développement personnel, au fait de chercher à se comprendre soi-même, comprendre les autres, comprendre le monde. C'est un moteur pour moi. Et Minimi, c'était ce que tu allais construire, David Laroche, en digital. L'idée, c'était de fabriquer un alter ego, une image digitale de toi, sur la base d'un certain nombre d'outils, pas juste une image visuelle, mais la représentation de toi, de ta personnalité. Et ça allait pas se faire en un coup, ça allait se faire avec un certain nombre de jeux, un certain nombre d'outils. Donc progressivement, tu allais partir à la découverte de toi-même avec cet outil. Et pas de manière isolée, mais aussi en relation avec d'autres, des amis, des gens autour de toi. Donc c'était tout un univers que je souhaitais qu'on crée. C'était très futuriste, hyper ambitieux, pas facile du tout à mettre en œuvre. Puis j'ai arrêté, parce que celui qui allait m'accompagner dans tout ça était absolument génial, mais je pense totalement incontrôlable et ça m'a un peu fait peur. Et donc, l'histoire de l'immobilier, c'est arrivé par hasard. En fait, il y a un camarade de promotion qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui était en train de remonter quelque chose dans le domaine de l'immobilier sur Internet et il avait besoin d'aide pour monter son business plan. Et c'était juste pour donner un coup de main. Donc, je l'ai vu une fois, deux fois, trois fois. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, si tu veux, ton truc est super. Associons-nous. Et pourquoi ça m'a intéressé? Parce que moi, revenant d'Angleterre, j'ai cherché un appartement pour ma famille et j'ai trouvé que c'était super difficile, alors que je suis parisien, de savoir si je me faisais rouler ou si je faisais une super affaire à ce prix-là. Et donc, quand je cherchais des informations précises pour savoir la valeur des biens, il n'y avait quasiment rien. Et moi qui viens de l'univers de la banque, l'univers de l'investissement, où quand on s'intéresse à un secteur, on a plein d'informations. Là, je trouvais, alors que les enjeux financiers familiaux sont énormes, qu'on manquait vraiment totalement de transparence. Donc c'est vrai, ça m'avait choqué. Puis j'avais vu aussi pas mal d'agents immobiliers. Et sur le lot, il y en avait qui étaient super, qui étaient très aidants, qui étaient très compétents. Et puis parmi eux, il y en a qui l'étaient beaucoup moins. Donc ça aussi, ça m'avait choqué. Quand cette affaire d'immobilier est arrivée et que j'ai commencé à aider cette personne, je me suis dit, il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet pour les consommateurs. Bon, il se trouve qu'au bout de 6 mois, ce gars-là m'a planté. Il est revenu vers moi en me disant, bah finalement, j'ai pas envie de le faire avec toi, j'ai envie de le faire seul. Bon.
Tu l'as vécu comment, ça?
Hyper mal. Ah, c'était l'enfer. En plus, je l'ai pas du tout vu venir. Il a commencé à m'expliquer que c'est parce que son épouse voulait qu'il retrouve un travail, etc. Je dis, bah écoute, pas de problème. Moi, je vais lever des fonds. Et puis, dès qu'on a des fonds, on te paye et pas de souci. Ah, bah non, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois. Je vais chercher à monter la boîte en parallèle de ma recherche de travail. Oups. Donc là, c'était plus tout à fait clair. Je me suis senti complètement trahi. Et donc, c'est vrai, là, les 15 jours qu'on suivi cette annonce-là, j'étais au fond du trou. Un jour, je me retrouve dans une salle de cinéma du 5e arrondissement. Il est 2h de l'après-midi. Je vais voir un film pour filles qui s'appelle Caramel. Ça se passe dans un institut de beauté à Beyrouth. Et je suis seul dans la salle.
Et t'es là pour arriver à décompresser?
Ah, pour décompresser, parce que je suis au fond du trou. Si tu veux, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants, ma femme travaille pas. Un an et demi avant, j'étais à la tête d'un gros fonds de capital risque de 180 millions d'euros. On allait enlever un plus gros, etc. Là, je suis revenu en France, j'ai plus de boulot, j'ai coupé les liens avec ma précédente industrie, personne m'attend. Je viens de planter 6 mois sur un projet où le gars m'a laissé tomber. Je me dis, waouh, là, je suis au fond du trou. Bon, je regarde ce film, je me marre. Je suis seul dans la salle, hein. Mais là, c'est sûr, je me dis professionnellement, bon, tu peux pas aller plus bas. Et puis, les jours qui ont suivi, je me suis dit, ben, c'est OK, c'est une épreuve, mais finalement, ce secteur, je le trouve super. Il y a plein de choses à faire pour les particuliers, parce que ça fonctionne pas bien. L'idée du gars était intéressante. Je vais faire autre chose, parce qu'en fait, on va prendre un angle, je vais prendre un angle différent, c'est OK. Je vais pas chercher à reproduire ce qu'on avait en tête, et je vais remonter une équipe. Mais j'ai eu 15 jours, c'est vrai, de profonde remise en question, de déprime, j'avais le moral dans les chaussettes, c'est sûr.
Et ça m'intéresse beaucoup parce que, encore une fois, on voit beaucoup sur Instagram et même sur LinkedIn, beaucoup de réussites, on voit pas les phases de doute et de challenge. Avec ton expérience d'aujourd'hui, quel conseil t'aurais eu besoin qu'on te donne à ce moment-là pour peut-être, au lieu de mettre 2 semaines, mettre 10 jours par exemple?
Aucun conseil, David, parce que 15 jours, c'est rien. Il faut les vivre. Et je pense qu'un des conseils que je donnerais, c'est accepter par moment de ne pas être bien, accepter d'être un peu déprimé, de passer par une phase comme ça où on se remet en question et on doute. Je pense qu'on en a besoin. On ne peut pas être tout de suite un champion, rebondir immédiatement. La vie vous envoie des coups de punch dans la figure de temps en temps. Et du coup, ça génère des émotions négatives. Et moi, trop longtemps, trop souvent dans ma vie, j'ai essayé de tout de suite remonter, faire comme si j'avais rien senti. C'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, je crois, c'est d'accepter qu'on a pris un coup, que c'est dur, qu'on est triste, qu'on a peur, etc. Se laisser traverser par cette émotion, la vivre, et puis après, on va remonter. Surtout pas chercher à être un super-héros, de mon point de vue. Alors, ça veut pas dire sombrer.
Oui,
je te dis pas de sombrer pendant 6 mois, je pense pas à ça. Mais accepter qu'on ait des émotions négatives et les vivre.
Est-ce que tu aurais des questions qui peuvent aider? Alors, non pas que ça soit plus court, mais qui pourraient aider justement à la fin de ces 2 semaines à en retirer le meilleur de cette situation. Des questions qui seraient utiles face à l'adversité ou face à du doute.
Je suis un optimiste par nature. Je suis quelqu'un qui est à la fois, je vais pas dire parano, parce que j'ai tendance à toujours tout analyser à l'avance pour essayer de tout comprendre, etc. Ce qui marche de temps en temps, et dans beaucoup de cas, ça marche pas, mais je suis fabriqué comme ça. Et en même temps, je suis fondamentalement optimiste. Et je ne crois pas du tout au hasard. Donc quand un mauvais coup m'arrive, comme celui-là, je crois que je mets les choses en perspective, et je suis pas heureux, mais c'est pas arrivé par hasard. Et il y a toujours un mal pour un bien. Parce que finalement, ce type qui m'a planté à ce moment-là, sur le coup, c'est hyper douloureux. Mais heureusement qu'il m'a planté là. Parce que si on s'était associé et qu'on s'était fâché, et on allait se fâcher, parce qu'en termes de valeur et de personnalité, à l'évidence, on n'était pas aligné. Je lui jette rien à la figure. Je suis en train de dire qu'on n'était pas fait pour s'associer. C'est douloureux sur le coup, mais c'est 100 fois plus douloureux 1 an ou 2 ans plus tard. Donc il y a quelque chose de positif derrière. Et c'est quasiment toujours comme ça dans la vie. Même avec des situations beaucoup plus graves, je l'ai vu, qui ne m'ont pas forcément concerné, ou autour de moi, j'ai vu des gens rebondir après des maladies, des moments, des séparations, des moments vraiment très durs. Et avec le recul, ils disent, mais en fait, il y avait plein de choses positives à en tirer. Il y a une phrase de Churchill que j'adore, c'est « When you go through hell, keep going ». Donc tu traverses un moment difficile.
C'est comme un nuage, quoi. Tu traverses, après il y a le ciel.
Tu t'arrêtes pas, tu t'apitoies pas, ça veut pas dire que tu vis pas le truc, mais tu continues parce que derrière il y a quelque chose d'intéressant, toujours.
T'as eu besoin d'avoir ces 6 mois pour le réaliser. Est-ce qu'avec du recul, tu vois des choses auxquelles t'aurais pu être attentif pour identifier plus tôt que c'était pas la bonne personne? Quel apprentissage t'as retiré pour d'autres relations futures?
D'une certaine manière, j'ai envie d'être plus « forgiving », tolérant, ouais, vis-à-vis de moi-même et accepter que je fais des erreurs et je vais en faire encore. Notamment, parce que c'est là où je continue à faire des erreurs, j'en ai fait d'ailleurs une récemment, c'est sur le plan humain. Se faire une vraie idée des gens. Attention, méfiez-vous de la première impression parce que c'est souvent la bonne. C'est vrai et c'est faux. Ben, cette personne, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu voir dans la relation qui auraient pu éviter ces 6 mois? Peut-être, mais en fait, je ne les regrette pas. Je l'ai trouvé super, je l'ai trouvé intelligent. Je m'entendais bien avec lui, on rigolait bien ensemble, il était bosseur. Je lui ai trouvé 1000 qualités. Et tu sais quoi? Il y a des choses, c'est comme en couple. Tant que tu ne les as pas vécues, tu ne peux pas savoir. Je continue à faire des erreurs sur le plan relationnel et humain, moins qu'avant.
Là, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Comment je m'enrichis de chaque expérience et comment cette expérience me donne un morceau de framework pour des futures relations?
Alors, je vais répondre peut-être de manière plus générale. Parce qu'effectivement, j'ai une manière d'approcher les choses qui n'est pas si incroyable que ça, mais que je vais partager avec toi. Quand je dis qu'elle n'est pas incroyable, je pense qu'il y a d'autres personnes, autres que moi, évidemment, qui ont cette approche-là, mais elle me paraît très intéressante. Et j'ai commencé à la développer quand je faisais du capital risque. Quand tu fais du capital risque et que tu investis sur des boîtes toutes jeunes, tu as un vrai problème. Parce que surtout quand tu as un cerveau analytique, je dirais, pour des marchés émergents ou des boîtes qui vont disrupter quelque chose, il y a toute une partie d'analyse que tu peux faire, de marché, de concurrents, de si, et puis il y a toute une partie, ben, tu peux pas. Parce que le business est naissant, les gens, tu les connais à peine, et t'as peu de comparables ou pas du tout. Ah! Et du coup, comment est-ce que tu décides si oui ou non, tu vas prendre une bonne décision en investissant ou pas? Et c'est là où interviennent ces notions de différents cerveaux. Pour schématiser, on a 3 cerveaux. Un cerveau physique qui va gérer toute la partie physique, neurovégétative, notre digestion, notre respiration, notre rythme cardiaque. Et Dieu merci, celui-là, il fonctionne tout seul. Au milieu, on a un cerveau limbique qui gère les émotions. Et puis, on a en haut, celui qui nous sert là au moment où on discute tous les deux, notre cerveau logique, notre néocortex. Lui, il parle, il calcule, il raisonne, il analyse. Il est super. Et on est très, très entraîné, particulièrement en Occident, pour utiliser et communiquer avec ce cerveau analytique. Sauf qu'à plein de moments, en fait, il y a un autre cerveau, le cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Lui, il nous envoie des signaux. Et si on ne l'écoute pas, c'est là qu'on fait des erreurs. Et ce qui est le plus important pour moi, pour limiter, je dirais, les bêtises, dans tous les domaines, investissement, relationnel, dans tous les domaines, c'est d'écouter tous mes cerveaux et surtout mon cerveau émotionnel. Parce que ce cerveau limbique, il est génial. La vie est apparue sur Terre il y a probablement l'ordre de 3 milliards d'années. Les humains, c'est 200 000 ans. Hein, l'humain moderne, bon. Notre cerveau néocortex, là, il est tout à fait récent. Le limbique, il nous a permis de survivre à toutes sortes de situations. Il capte un nombre d'informations absolument gigantesque très, très, très vite. Et si on l'écoute, il y a beaucoup d'erreurs qu'on va éviter. Et quand notre cerveau limbique dit de ne pas y aller, même si notre cerveau logique nous dit c'est OK, il faut toujours, toujours, toujours écouter le cerveau limbique. Tu ne sais pas forcément pourquoi tout de suite, mais si tu ne l'écoutes pas, tu vas te prendre une tarte dans la figure et tu comprendras après. J'étais un peu long pour expliquer ça, mais ça c'est fondamental. Et être capable du coup d'écouter ses émotions, d'écouter son ventre, parce que souvent il nous envoie quelque chose. On est sur le plan de prendre une décision, on va s'engager avec quelqu'un, on va acheter quelque chose, on va peut-être prendre un nouveau boulot, on va investir ou pas dans une entreprise, on a très envie de le faire, on voit que tout est OK sur le plan logique, mais il y a quelque chose qui nous gêne, on ne sait pas vraiment dire ce que c'est. Il y a un truc quelque part. Ça, c'est notre cerveau limbique qui nous raconte une histoire. Mais comme il ne sait pas parler, il ne sait pas compter, il n'a pas de vocabulaire, on a du mal à savoir. Mais quand il y a cette gêne qui est là, le conseil, c'est « faut pas y aller ».
Moi, ça me parle beaucoup, hein, ces notions d'intuition, d'accéder un peu à ce langage du corps. Comment tu distingues une peur qui serait une peur de l'ordre de ton intuition ? Moi, par exemple, j'ai voulu acheter un appartement il y a un an, un, deux ans. Et effectivement, j'avais jamais ressenti autant de stress, d'inconfort. Sur le papier, ça me paraissait top. Et je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible. Ça te met déjà dans un état pourri juste avant d'acheter, achète même pas. Donc là, c'était flagrant, ce jour-là. Mais il y a des fois où c'est plus subtil. Et même pour moi, je vais me dire, tiens, mais est-ce que c'est une peur qui est saine ou est-ce que c'est une peur juste parce qu'en fait, il s'agit de se lancer. Parfois, je vois dans ma vie, il y a eu des peurs où c'était intéressant de les traverser et de les vivre. Surtout, bah, moi, je viens d'un parcours timide, mal dans ma peau, complexé, donc ça m'a servi à plein de reprises de dépasser mes peurs. Et à d'autres moments, cette peur, eh ben, elle me dit quelque chose ou cet inconfort, elle me dit quelque chose. Comment tu fais la différence ?
Je pense que ta peur et nos peurs sont très importantes. Il faut les écouter. D'abord, je pense qu'il ne faut pas les réprimer, première chose. Je l'ignore, bon, je suis faible, je dois être fort, j'ignore ma peur. Bon, ça, ce n'est pas du tout la bonne démarche. Donc, j'écoute ma peur. Je l'écoute et j'essaye effectivement de comprendre ce qu'elle me raconte. Et effectivement, avoir peur au moment où on achète un appartement et on va s'engager sur longue durée pour un fort investissement, enfin, c'est tout à fait naturel. Et je pense que 100% des gens qui achètent un bien immobilier à un moment donné ont peur. C'est naturel et c'est sain. Après, si on n'arrive pas à l'analyser et à en comprendre le fondement, c'est peut-être là qu'on a un problème. Parce que si on fait bien son travail d'écoute, on va arriver effectivement à sonder et à voir si oui ou non, c'est quelque chose dont il faut tenir compte ou c'est quelque chose qu'on va pouvoir dépasser. C'est toujours cette même notion de s'écouter.
J'aimerais qu'on revienne sur la notion de trouver l'idée. Parce qu'en fait, avant je me disais, bah, tiens, ça s'applique que au démarrage de l'aventure entrepreneuriale, mais finalement, moi, je me rends compte que des nouvelles idées, on peut en avoir plein tout au long du parcours, on peut avoir envie de pivoter. Là, en ce moment, justement, je développe, après avoir beaucoup poussé la dimension plus mindset, coaching, ça m'inspire de plus en plus de développer la dimension accompagner les entrepreneurs. Donc, c'est des nouvelles idées à avoir. Et en plus, c'est hyper intéressant parce que tu as un parcours, effectivement, où tu as été dans la position de choisir où investir, puis ensuite de créer. Comment je sais que Minimis, c'est la bonne idée ou pas pour moi, avec les compétences que j'ai, le réseau que j'ai ? Parce que, de ce que j'ai compris avec Meilleurs Agents, il y a beaucoup de VC qui t'ont dit « non, ça marchera jamais ». Tu aurais pu te dire à ce moment-là « bon, ils ont raison en fait, c'est pas un bon plan ».
Je crois qu'effectivement, de mon point de vue, une bonne idée, c'est quand on a vraiment quelque chose à régler. Il y a un problème à régler, il y a quelque chose qui fonctionne pas normalement ou pas de manière optimale et on veut le régler. En ce qui me concerne, pour Meilleurs Agents, on en a parlé rapidement, le fonctionnement du marché immobilier n'est pas satisfaisant pour les particuliers. Ce marché est opaque et il y a un défaut de confiance entre les particuliers et les agents immobiliers. Donc il y a quelque chose à régler et ce n'est pas quelque chose d'annexe. L'achat, la vente d'un bien immobilier, maison, appartement, c'est quelque chose qui est central dans la vie des gens. Les enjeux personnels, les enjeux matériels sont considérables. Donc c'est vrai que, de mon point de vue, j'étais en mission. Et donc, avoir le sentiment qu'on est en mission pour régler quelque chose d'important, c'est la clé. Aller régler simplement quelque chose parce que je verrai une opportunité financière, il y a un coût à faire, il y a un dysfonctionnement un peu comme un trader qui verrait une différence de prix entre tel et tel actif et qui va en tirer parti. Il y a sûrement des moyens, je dirais, de faire de l'argent, mais de mon point de vue, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas suffisamment moteur, ça n'est pas suffisamment fédérateur pour justifier de se lancer dans un business. Donc ça, c'est le point de départ. Quelque chose d'important à régler qui va faire que quand on se rattache à ça, on se dit « je suis en mission pour régler ça ». Et certainement pas juste la dimension « il y a un coût à faire sur le plan financier ». Après, la deuxième chose, c'est, tu as parlé de « est-ce que j'ai les compétences ? Est-ce que j'ai le réseau ?» etc. Ça, pour moi, c'est beaucoup moins important.
Alors, pour creuser cette notion d'identifier le problème, parce que je pense que là, il y a un enjeu. Je pense que beaucoup de personnes qui suivent la chaîne comprennent ça, au moins intellectuellement. J'écoutais, je crois, un podcast il y a 2-3 jours et la personne disait, voilà, les VC vont être sensibles à deux critères. C'est, encore une fois, c'est schématique. Un gros marché et un business model simple, un problème simple. Tu vois, si on reprend Minimis, que je pense que ça m'intéresse de voir comment tu le décomposes, est-ce que là, tu avais la sensation que tu résolvais un problème. Pourquoi je te pose la question, c'est que je vois beaucoup de personnes, dans mon cas, moi j'ai tout un écosystème autour de moi de gens qui le côté mission, ça c'est largement intégré. Ils ont envie d'aider les gens à être plus heureux, ils ont envie d'apporter. Donc ça c'est, ils vont pas être sur typiquement l'opportunité de marché, ils vont être sur un truc qui a du sens. Mais du coup ils vont essayer de créer une boîte qui a un mouton à 7 pattes, à 9 pattes, parce qu'ils ont pas localisé c'est quoi le problème. Est-ce que dans Minimi il y avait, avec du recul, un problème que tu résolvais?
C'est trop tôt pour te répondre. Enfin, j'ai pas suffisamment bossé le sujet, mais ce que tu dis est très important parce que la mission et le sens, évidemment, ne suffisent pas parce que derrière, il va falloir monter la machine. Il va falloir monter le business qui va tourner. Et effectivement, pour ça, il va falloir identifier le point cœur. Moi, c'est ce que j'appelle la roue à aube qui va permettre effectivement derrière d'engager une machine à business. Parce que la mission, c'est très bien, mais la mission qui est alimentée par un business profitable qui tourne, c'est beaucoup mieux. Et donc ça, c'est là où effectivement, de mon point de vue, on retrouve là, et avec mon parcours, un croisement entre quelqu'un qui, comme plein d'autres entrepreneurs, a envie d'apporter une contribution, même modeste, positive à son environnement, mais aussi un sens très clair du business, de ce qui va tourner, pas tourner, des enjeux financiers, des enjeux humains. C'est un croisement des deux. Sinon, effectivement, c'est ce qui va distinguer un rêveur d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va non seulement avoir une vision, une mission, mais qui va se donner les moyens de la réaliser. Là-dessus, il y a souvent un bouquin que j'offre, qui est la biographie de Magellan par Stefan Zweig. Ça nous ramène quelques siècles en arrière. Hein. On est au tout début du 16e siècle, et Magellan, je le rappelle, c'est un navigateur, un explorateur. Il décide de trouver un passage vers l'ouest, au travers de l'Atlantique, pour retrouver l'Inde. Et ça n'a jamais été fait avant lui. Donc, il a une vision originale du monde. Il a envie de réaliser un truc de fou. Ça, c'est super. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que derrière, il va falloir qu'il convienne que des financiers, en l'espèce la famille royale d'Espagne, il va falloir des moyens considérables et puis il va falloir les mettre en œuvre. Monter une équipe, une flotte complète et puis engager le voyage. Donc l'entrepreneur, c'est ça. C'est la vision et se donner les moyens pratiques de réaliser la vision. C'est les deux. C'est indispensable. Il y a 2 jours, un apprenti ou quelqu'un qui a envie de devenir entrepreneur qui m'a appelé. Le type a un CV fantastique. Je crois qu'il a fait l'école polytechnique. Il a passé 10 ans de trading. Puis derrière, il a fait l'INSEAD. Puis là, ça fait 3 ans qu'il fait du conseil chez McKinsey. Il dit « Ah, Sébastien, j'aimerais vous parler. » Alors, on se tutoie. « Bon, qu'est-ce que tu as comme idée pour monter un business en ce moment avec un collègue on est en train de regarder un certain nombre de choses. On passe un certain nombre de secteurs en revue, etc. » Donc, une approche ultra analytique. Typique conseil. Le gars a un cerveau magnifique, donc tu vois, son cerveau, son néocortex, il doit fonctionner à la perfection. Et je dis tout ça, c'est super, mais moi, je t'invite, tu vois, à aller à la terrasse des cafés, aller dans les magasins, regarder les gens autour de toi, tu débranches un peu ton cerveau analytique et tu écoutes ton cœur et tu essayes de ressentir les choses. Laisse-toi traverser, essaye d'observer, essaye de ressentir et de vivre des trucs. Et il y a des choses qui vont venir assez naturellement à toi. Parce que dans un cas comme celui-là, je pense qu'une approche tellement méthodique par secteur, par niveau d'opportunité, par potentiel de marge, ne va jamais t'amener à la bonne solution. Je sais qu'il m'écoutait, il y avait des longues pauses, etc. Et il est revenu vers moi par email. Et il m'a dit « Ah, mais en fait, ça m'ouvre de nouveaux horizons. Je me rends compte effectivement à quel point j'approche ce sujet de manière trop analytique. » Temps 1, il faut du limbique, il faut de l'émotionnel, il faut de l'observation. Temps 2, le temps de l'analyse. Est-ce qu'effectivement le marché est suffisant? Est-ce que je vais trouver une mécanique pour la monétisation? Par quelles étapes je vais passer? Mais ça, de mon point de vue, ça vient dans un deuxième temps.
Si je me dis, ben, tiens, il y a plein de gens qui ont le problème de développer leur activité. Qu'est-ce qui me permet de me dire, ah non, mais c'est trop large là comme problème? Typiquement, j'ai envie que les gens soient plus dans le bien-être. Comment je sais que c'est trop large?
Je crois que là, tu poses la question, mais en fait, la réponse, tu l'as. Ouais. Dans les deux cas, tu sais que c'est trop large. Si tu me mettais devant ce challenge-là, en me disant, bon voilà, c'est un sujet trop large, est-ce que tu peux trouver un angle plus aigu, plus pointu? Eh bien, j'irai parler avec un certain nombre de personnes et j'irai les écouter. Parce que je sais qu'en allant les écouter, sans idées préconçues, les idées viendraient se déposer sur mon écran. J'irai dormir dessus, parce qu'il se passe aussi des choses pendant mon sommeil, et je sais que ça va émerger. Et que dans ces thématiques très très larges, finalement, ben, y a quelque chose qui va émerger. Par exemple, je vais me rendre compte que ben, les gens ne prennent pas suffisamment soin de leur corps. Ils ne s'écoutent pas suffisamment. Je peux avoir des gens qui ont 25-30 ans, ils sont à fond, et ils n'ont pas une vie saine, ils n'ont pas une vie équilibrée. Ils ne dorment pas suffisamment, ou ils n'ont pas une bonne alimentation, ou ils ne font pas suffisamment de sport, ou alors ils ne font pas le bon truc, ou ils ne se font pas suffisamment plaisir. C'est-à-dire qu'ils font les trucs de manière très méthodique, mais sans se rendre compte qu'ils sont en train de faire des trucs qui sont peut-être très bien dans un bouquin, mais qui ne correspondent pas à leur morphologie ou à leurs besoins profonds. Et donc là, je vais être sur quelque chose, en fait.
Top, c'est une super réponse. Tu as fait pas mal d'entretiens d'embauche dans le sens pour recruter tes équipes. C'est le cas?
Oui, okay. C'est vrai. Surtout pour trouver mes associés. Très vite, en fait, j'ai délégué le recrutement. J'ai été présent assez longtemps, mais moins longtemps que quand tu entends des entrepreneurs qui disent encore 10 ans plus tard, je vois tous les gars, etc. J'ai pas fait ça. Mais au début, les 10 premières personnes, c'est certain, j'ai passé énormément de temps et surtout mes associés. C'est là que j'ai investi le plus de temps.
Ok, bah ça m'intéresse qu'on creuse ensemble cette dimension du recrutement. C'est devenu une des priorités de toute l'équipe de trouver les bonnes personnes pour nous, des gens talentueux à qui la mission de la boîte résonne avec eux. Parce que je trouve que c'est hyper dur pour plein d'entrepreneurs. Donc, toutes les astuces sont bienvenues.
Ok, tu parles de la clé, c'est un des nerfs de la guerre, peut-être le deuxième. Et puis, tu as cité hein, dans ta question, de mon point de vue, le mot magique, c'est le mot mission. Moi, comme entrepreneur et peut-être à l'initiative d'un projet, je crois qu'il faut que j'apporte deux choses super claires. La mission et les valeurs. Si j'ai pas ça au début ou pendant l'aventure, je vais aller nulle part. Mais si, en revanche, ma mission est claire, j'ai pas dit comment y aller, hein, mais où je veux, et mes valeurs sont claires, là, tout va pouvoir fonctionner à une condition que sur la base de cette mission et de ces valeurs, je sois capable de m'entourer de gens que cette valeur anime, qui ont envie comme moi d'aller à cet endroit-là et qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est la base de tout. Parce qu'une fois que ce vocabulaire est écrit, finalement, tu vas te rendre compte que y a des gens, ça colle pas trop. Et d'autres avec qui, finalement, en creusant, tu te dis, on est proche. Donc, ça, c'est la clé, la brique de base. Tu vas pas trouver, je pense, les bons associés si t'es pas au clair sur ces deux points-là. Et je rencontre Pascal Boulanger. On est très différents tous les deux. Mais très vite, je ressens chez lui un gars profondément intègre, bosseur, et bienveillant. Et donc, je vois non seulement des complémentarités sur un plan business, mais avant tout sur le plan humain, j'ai quelqu'un en face de moi qui m'inspire confiance. Et donc, ça, c'est le premier. Les deux autres, qui sont Julien Chessial et Jordan Sagnal, qui ont 15 ans de moins que moi, eux, ils viennent de la partie tech. Julien Chessial, je le rencontre parce que j'ai lu un article sur un site génial qu'il a monté qui s'appelle Immoplaza, et c'est des sites d'annonces immobilières géolocalisés sur fond Google Maps. On est en 2021, aujourd'hui ça nous paraît complètement évident, mais là on est en 2007, c'est révolutionnaire, c'est génial. La première fois qu'on se voit avec Julien, on s'entend bien, mais pas suffisamment pour dire « Ah, on s'est un peu recroisé 2-3 fois ». Et puis au bout d'un moment, on se croisait trop souvent, on a décidé de se revoir. Il m'a présenté son nouvel associé Jordan Sagnal, qui l'avait rejoint pour monter ou développer la partie business avec lui. Et puis, ces deux gamins, ils avaient 15 ans de moins que moi, je les trouvais super vifs, super sympas. Je voyais qu'ils me regardaient quand même un petit peu en se méfiant. Parce qu'ils se disaient, c'est qui ce gars? Pas beaucoup de data sur lui, beaucoup plus âgé. Et puis, je leur ai proposé finalement de me retrouver avec Pascal, chez moi, dans mon appartement, fin décembre 2007. Et là, je leur ai fait signer un NDA, Non-Disclosure Agreement, un engagement de confidentialité. Ils étaient un peu surpris. Et je leur ai dit, je vais vous présenter tout mon projet.
Ah, parce que pour l'instant, t'avais pas encore présenté meilleurs agents?
Dans le détail, non. J'étais devenu un petit peu méfiant parce que c'est vrai, j'avais pas mal d'idées là-dedans. Pascal, je lui avais tout révélé. Les autres dans le marché, j'attendais de voir si effectivement il y avait un fit un peu plus important avant de lâcher de l'information. Donc, c'est pas facile de chercher des associés à ce moment-là parce qu'on a envie de les amener à soi en partageant des informations, mais on n'a pas forcément envie de se faire voler des idées par des gens qui sont déjà dans le secteur, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs parfois. Donc, faut arriver à en dire sans trop en dire. Puis, il y a un moment, ben, on ouvre le kimono. C'est ce que j'ai fait fin décembre. Et là, je leur ai tout présenté. Je leur ai dit, ben voilà, si ça vous plaît, répondez à nous, à Pascal et à moi, dans une semaine. Le lendemain, ils disaient, ben banco. Et début janvier 2008, on était partis. Voilà, ça, c'est les associés. Et on ne s'est jamais retourné. Mais c'est vrai que très vite avec eux, tu vois, j'ai dit, voilà, j'ai envie de révolutionner, de transformer le marché immobilier, de le rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus transparent pour les particuliers. Mais je n'ai pas envie qu'on le fasse n'importe comment. Il y a des valeurs très importantes pour moi. Entraide, excellence. J'ai parlé de la stratégie du dauphin. Ils ont fait des gros yeux comme ça. Et puis, c'était banco. La stratégie du dauphin, ça, c'est quand je préparais Minimi.
Ouais.
Et qu'une coach m'a dit, « Ah, mais vos idées, ça me fait penser à un bouquin de management publié par des Américains. Ça s'appelle « La stratégie du dauphin ». D'un côté, il y a les carpes qui se font bouffer. De l'autre côté, il y a les requins qui mangent les autres. Et puis, il y a une troisième version, c'est les dauphins, ils recherchent des relations gagnant-gagnant. Et comme moi, notamment à Wall Street, j'avais observé beaucoup de requins et de carpes, je me sentais pas trop carpe, je me voyais pas non plus dans la peau d'un requin, je me suis dit, ce bouquin est pour moi. Et ça a été une révélation. Et quand on a monté Meilleurs Agents, mon idée, c'était de dire, ah, tiens, on va essayer de monter une boîte de dauphins. On a traduit la stratégie du dauphin en deux valeurs cardinales chez Meilleurs Agents, qui étaient l'entraide et la quête de l'excellence. C'était pas pipeau, ça a fonctionné, ça a été le moteur central de Meilleurs Agents. Ces valeurs sont toujours super vivantes. C'est ça qui fait venir les gens, c'est ça qui les retient et c'est ça qui fait qu'ils délivrent le meilleur d'eux-mêmes.
Pour les premières équipes, ça a été quoi un petit peu la manière de t'y prendre pour construire l'équipe?
Alors, ça reste ce qu'il y a de plus difficile, le recrutement. Essentiel est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, il faut y consacrer du temps. Donc, sur les premiers recrutements, j'étais toujours présent. On rencontre les gens, on faisait à plusieurs des entretiens qui pouvaient durer un certain temps, une heure. Souvent, je sortais aussi. J'aime bien sortir avec les gens, faire un tour de pâté de maison, marcher. On va prendre une orange pressée dehors. C'est bien. La dimension, on a un bout d'entretien physique en face à face, mais aussi sortir avec les gens. Parce que quand on se met à discuter et qu'on n'est plus l'un en face de l'autre, il y a d'autres choses qui sortent. Et puis quand on se retrouve dans un café avec une orange pressée, un café, là aussi il y a des choses. Et donc si on prend une heure et demie et qu'il y a différents bouts, on va avoir une palette de choses très riche. Plusieurs personnes rencontrent la même personne et on va avoir après des points de vue qui vont se confronter. Voilà, souvent demander un retour à la personne qu'on a vue en disant ben voilà, ça s'est passé comment pour vous, vous en retenez quoi? Ça, ça permet aussi d'avoir un point de vue complémentaire. C'est est-ce que la personne est motivée? Qu'est-ce qu'elle a compris? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle veut apporter en plus? Ça, c'est très, très riche. Et puis, quand on veut avancer, quelque chose que j'ai toujours fait, qui est difficile et qui est essentiel, la prise de référence. Ça, c'est très compliqué, parce qu'on peut le faire de manière un petit peu automatique, mécanique, et on ne va pas en tirer grand-chose. Les gens n'ont jamais envie de dire de mal des gens.
Oui, c'est pas culturel.
D'abord, puis c'est dur, puis parfois on a peur, des retours de bâton, etc. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est, écoutez, on a beaucoup aimé cette personne, on pense sincèrement faire une offre, je ne vais pas le dire si je ne le pense pas, mais il y a peut-être des choses que vous pouvez me partager qui vont m'aider à mieux l'intégrer, à mieux la gérer. Il y a peut-être des choses, vous vous êtes rendu compte que c'était plus compliqué, etc. Voilà. Donc c'est plutôt une demande d'aide, plutôt que de me dire, ben, balancez-moi des choses affreuses sur cette personne, donnez-moi des éléments qui vont me permettre de faire en sorte que ça se passe mieux. Et là, il y a des choses qui s'ouvrent. Et ne pas ignorer ce que j'entends à ce moment-là. Parce qu'effectivement, là, il y a des informations très riches qui vont sortir des prises de référence. C'est essentiel.
C'est clair, c'est super intéressant. Nous, on commence seulement à le faire de plus en plus et ça apporte un bel éclairage et qui, comme tu le dis, au-delà de est-ce qu'on va prendre ou pas la personne, facilite l'onboarding.
Oui.
Parce qu'on a déjà une idée de la personnalité de la personne, comment elle fonctionne.
Oui.
Donc ouais, je trouve ça super. Et effectivement, moi, pour l'instant, nous, on se limitait au manager et j'ai eu le cas là d'un jeune qui sortait des études. Et du coup, j'étais en mode, ben, il n'a pas eu de manager. Qui appelait, par exemple, tu vois, d'un jeune qui sort des études? Les profs?
Tu peux? Tu lui demandes des contacts autour de lui. Il n'a pas bossé, mais peut-être, effectivement, il a un prof de tennis, il a un prof de maths, il a un très bon copain, il a son parrain. Peu importe. Je dirais que selon les postes, on peut ajouter d'autres choses et faire une étude de cas, de mon point de vue, peut être aussi super instructif. Et pour lui, et pour elle, et pour toi. Tu vas créer un cas qui va ressembler plus ou moins à des choses qu'il pourrait avoir à faire dans le cadre du job.
Est-ce que on lui dit t'as 2 jours et tu reviens vers nous, ou est-ce que c'est t'es en direct, là voici ton truc?
Ça va dépendre, David, parce que si par exemple c'est un job créatif, c'est un boulot de marketing, il faudra faire une étude de marché, une recommandation, faut du temps. Puis souvent les gens bossent, ils ont autre chose à faire, faut leur laisser un peu de temps. Donc là, tu t'adaptes.
Ça a été douloureux de même de bien définir les scorecards, les job desks et tout ça. Mm-hmm. Mais j'ai vu qu'il y a des candidats que ça leur a donné envie d'aller plus loin dans le process de recrutement, mm-hmm. de se dire, OK, bon, ils sont suffisamment clairs sur ce qu'ils attendent de moi et ça a créé du désir chez certains candidats. Alors aussi, ça a créé certainement du rejet chez d'autres, mais ça tombe bien, je pense. Mm-hmm. Un exercice très difficile de définir qu'est-ce que j'attends de la personne, c'est pas évident comme exercice.
Mais il est difficile, mais sauf que si on ne le fait pas, c'est là qu'on se plante. Et moi, je me suis planté dans des recrutements comme ça parce que j'ai pas suffisamment bien défini ce que j'attendais des gens. Ça demande un effort et on n'est pas toujours conscient qu'on sait pas. Je crois que ce que tu fais est absolument essentiel. Il envoie les bons signaux et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le travail que tu fais, il clarifie la mission et les valeurs, même si tout n'est pas là directement, parce que c'est pas comme ça que tu l'as écrit, de manière induite. Tu communiques sur ta mission et sur tes valeurs. Et du coup, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. J'ai envie de faire un parallèle, si tu veux, entre le recrutement et ce qu'on appelle dans le monde du commerce, l'expérience client. Il y a des environnements, que ce soit sur le net ou dans la vraie vie, on a une expérience client qui est absolument remarquable. Tout est parfait, on sent que tout a été pensé. Qu'on prend soin de soi. Et si tu peux offrir ça à un candidat, tes chances d'attirer, de retenir, de donner envie aux meilleurs d'entre eux sont démultipliées. C'est la clé. Et c'est ton job. Je pense que comme patron, promoteur, visionnaire, tu as la vision, la mission, les valeurs. Et après, tu vas réussir parce que tu vas réussir à attirer à toi les bons talents et les retenir. Et là, tu as fait 80% du job.
Il y a des questions que tu adorais poser, qui étaient un peu des questions favorites à poser en entretien.
Et j'aimais bien leur demander s'ils pensaient que j'étais passé à côté de quelque chose sur eux. S'ils pensaient que j'avais pas forcément pris la bonne dimension de qui... ils étaient. Ça permettait éventuellement de corriger. Dans ces moments-là, j'avais des éléments peut-être plus personnels. Le masque tombe. C'est ça le danger. Hein. C'est qu'on peut être tellement préparé à un entretien, alors qu'en fait, un entretien, ça peut être que gagnant-gagnant. Si je joue un rôle, que j'ai été un super acteur, etc., mais en fait, j'ai donné une image de moi-même qui est incorrecte.
Je vais payer le prix moi-même.
Oui. Tout ce qui permet effectivement de percer l'armure, c'est positif. Sans chercher à mettre les gens en difficulté, parce que ça, bon, c'est pas si intéressant que ça.
Il y a une chose que j'aimerais explorer avec toi. Je suis très admiratif de ton parcours et de ce que tu as réussi à bâtir. Ça m'inspire perso. Tu t'es mis à avoir pas mal d'équipes autour de toi. Comme tu disais, ton rôle de CEO, de promoteur, de ce rôle visionnaire. Un endroit où je pense, c'est sûr que j'ai à bosser, c'est ce côté... là, on vient d'avoir un nouveau RH... À quel point je vais m'impliquer moi-même dans la stratégie RH. C'est-à-dire qu'en fait, je peux facilement me lire 6 livres sur le RH et avoir plein d'idées. Et donc, je peux facilement devenir control freak. C'est quoi pour toi le rôle de CEO? Est-ce que ça se fait de manière progressive ou tu lâches de plus en plus? Est-ce que tu conseilles de, dès que tu as la personne, allez, je lâche, c'est la personne qui gère le RH? Ça m'intéresse d'avoir un peu ta vision et ta lecture là-dessus.
Le parfait CEO qui recrute, qui délègue parfaitement, bon, d'abord, je ne l'étais pas. Je ne le suis pas, ça doit exister, mais je ne suis pas sûr d'en avoir vraiment rencontré. Ton côté perfectionniste, control freak, on le reproche à beaucoup de patrons entrepreneurs. Et je pense que plus on est jeune et plus on a, entre guillemets, cette posture-là. Et je crois qu'il faut que tu te la pardonnes dans une certaine mesure parce que ça fait partie du parcours de l'apprentissage de l'entrepreneur et du jeune entrepreneur. On veut tellement que ça marche, on est tellement passionné et il vaut mieux être plutôt comme ça que pas. Et moi, c'est vrai que les premières années, j'étais au courant de tout. Ça ne veut pas dire que je micromanageais les gens, parce que ça, c'est pas bon, et tu ne peux pas attirer à toi des gens de talent si tu es dans leur dos et que tu leur fais pas confiance. Ça ne marche pas. Mais la délégation complète et ne met pas être au courant et machin, ça marche pas non plus. C'est une question de dosage. Mais effectivement, avec le temps et avec l'expérience, tu arrives plus facilement à lâcher. Tu arrives plus facilement à déléguer. Tu fais confiance plus vite parce que tu repères plus vite si quelqu'un est là ou pas. Même sans forcément regarder, je sens les choses. Et si je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait OK, etc., je n'ai pas forcément besoin d'avoir tout de suite le nez dessus pour le sentir. Et ça, c'est ce que tu développes comme un pilote, comme un pâtissier, comme dans n'importe quel métier. Avec le temps, tu développes des capteurs, des sensibilités très fortes qui font que, même sans être sur le dos des gens, très vite, ça remonte. Alors après, c'est comment tu interviens. Parce que si effectivement tu interviens et tu dis « Oups, ça tu le fais pas bien, ça c'est mal, ça c'est si », très vite tu vas effectivement pas amener les bons réflexes chez les gens. C'est comment est-ce que tu arrives à être là en mode coach et pas contrôle freak. Parce que contrôle freak, c'est l'horreur, tu brises les gens. Coach, accompagnateur, feedback positif, bienveillance, ça, ça fonctionne. Sachant que, et ça pour moi c'est un truc très important, c'est accepter l'erreur. Et quand on dit accepter l'erreur, ça veut dire c'est une tarte à la crème. Mais accepter l'erreur, ça veut dire déjà faire des erreurs soi-même, accepter de faire des erreurs ou de ne pas savoir des choses et le dire. Un entrepreneur qui est à l'origine peut-être d'un projet, qui dit « Les gars, je ne sais pas, je n'ai pas la solution, j'ai fait ça, je me suis trompé. » C'est extraordinaire, tout ce que ça libère. Au début, on a peur parce qu'on se dit « Ouh là là, s'ils se rendent compte que je ne sais pas ou que je me suis trompé, ils vont se dire que je ne suis pas bon. » En fait, c'est le contraire. Bon, si tu passes ton temps à te tromper, à ne pas savoir, il y a un problème. Mais si de temps en temps, tu dis « Vous savez quoi ? Là-dessus, je me suis planté. Je me suis rendu compte que j'avais pas pris la bonne décision ou j'ai agi trop vite, ou j'ai pas parlé de la bonne manière à cette personne, je l'ai blessé, je regrette ce que j'ai fait. » C'est fantastique, en fait, l'effet que ça a sur les équipes. Parce qu'ils se rendent compte qu'on n'a pas besoin d'être parfait, qu'on peut commettre l'erreur, qu'on est pardonné. Ça change tout. Parce que derrière, les gens se libèrent, ils prennent des risques, ils deviennent plus eux-mêmes.
T'as un cas comme ça, toi, où c'était pas forcément évident de le dire à tes équipes et ça a créé beaucoup d'énergie. Enfin, j'imagine qu'il y en a, mais en tout cas, est-ce que t'en as un qui te revient ?
Je sais qu'en termes de communication, moi, je suis quelqu'un d'assez cash. Parfois, je fais des blagues et je me suis trompé. Parfois, j'ai pu blesser des gens et dire « Bah écoute, je suis vraiment désolé, je me rends compte que je t'ai blessé. » Et le faire en face à face. Et après, dans un cercle plus large, redire auprès de tout mon comité de direction, ben, un tel qui fait partie du comité de direction, j'ai eu tel propos avec lui, j'ai fait une blague, etc. Devant tout le monde, je l'ai blessé et je me suis rendu compte à quel point c'était idiot. Ben, je lui ai présenté des excuses et voilà, j'ai été nul là-dessus. Donc pardon pour ça. Et donc, non seulement le faire vis-à-vis de lui, mais aussi présenter des excuses devant tout le monde.
C'est puissant, ouais.
Oui, en fait, ça fait du bien à tout le monde. Y compris à moi, je ne l'ai pas fait pour me faire du bien à moi, mais c'est pour montrer que finalement, ça ne devait pas être tabou. Et j'ai essayé de le faire de manière sincère, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit de façade. Il faut qu'on ait l'impression que... Enfin, on se rende compte que, bah oui, je m'en voulais. Je me suis senti nul. Et puis en même temps, bah, c'est OK, bah, je ne suis pas parfait. Je ne vous demande pas d'être parfait. En revanche, je vous demande d'être sincère, d'être intègre. Mais ce droit à l'erreur, c'est un truc tout bête, il est fondamental.
Surtout en France, en plus, on a du mal avec ça.
Oui, ça bouge vachement. Hein.
Ouais.
Ça bouge très, très vite. En tout cas, le boss, c'est pas celui qui sait tout, c'est pas celui qui se trompe jamais, etc. Et donc, toi, David, parce que je te vois te mettre une pression énorme, et c'est normal, compte tenu de là où tu viens, tu sais mieux et tu acceptes plus. Mais continue d'accepter de pas être parfait et de pas savoir. Continue.
c'est vrai.
Moi, j'ai 54 ans, j'ai encore tellement de défauts et je mourrai avec des défauts et c'est OK.
Prenons justement un exemple pour peut-être mieux creuser le rôle de CEO. Là, par exemple, une des choses qui m'inspire, que j'ai envie qu'on mette en place, ça fait partie de la scorecard du RH, c'est de faire un super 90 days onboarding pour les collaborateurs. Que quand ils arrivent, l'expérience des 90 premiers jours les aligne sur la mission, les valeurs, clarifie leur rôle, leur donne les ressources pour avancer. Ça, c'est la vision. Ça, je comprends bien que c'est mon rôle de lui partager jusque-là. Là où peut-être pour l'instant, je sais pas, c'est que est-ce que je m'arrête là et en gros, vas-y.
Oui. Sauf s'il vient de voir en disant, écoute, David, je suis planté là-dessus ou donne-moi ton avis. Est-ce que tu penses entre ci et ça? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Bon, ben là, tu vas lui répondre. Si tu l'as bien recruté, il va trouver les solutions. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de son job. Tu lui as donné les grandes lignes, maintenant il va se débrouiller. Et c'est sympa qu'il se débrouille, ça va donner tout le sel. S'il rejoint une entreprise comme la tienne et pas une grande multinationale super structurée, c'est parce qu'il a aussi un esprit entrepreneurial. Et il a envie de vivre ça. Et le fait qu'il soit un peu paumé et qu'il parte d'une page blanche, ça va peut-être un peu l'effrayer. Mais quand il aura réglé les trucs, il va être tellement plus fier. Qu'à la limite, tu lui dis, si tu veux parler à d'autres RH dans d'autres boîtes, etc., j'ai des copains qui sont là et là, et éventuellement aller attraper des bonnes idées chez eux, voilà tel et tel numéro. Et finalement, ça va être pour lui, je crois, beaucoup plus enrichissant d'aller chercher de la matière. Tu vois, il pourra aller chez Meilleurs Agents, il va voir Aminata Pelletier chez Meilleurs Agents, ou Florie Garnier qui est notre DRH, ou Elisabeth Pieluchat. Tu vois, je te cite quelques personnes, elles sont absolument extraordinaire, elles vont lui dire, comment chez Meilleurs Agents, on fait tout ça. Alors, il le fera à sa sauce. Mais voilà. Donc, débrouille-toi. Et il va trouver des solutions et il va être surpris de ce qu'il est capable de faire. Parce que ce que Dieu a envie, finalement, c'est qu'il y ait des gens formidables qui te rejoignent et ils viennent là pour se surprendre eux-mêmes. Il y a deux phrases que j'adore sur ce sujet-là qui sont très liées aux valeurs qui m'animent. C'est « Qu'as-tu fait de tes talents ?» et « Qu'as-tu fait de ton prochain ?» Et « Qu'as-tu fait de tes talents ?» Tu sais, on est tous avec un potentiel extraordinaire. Maintenant, la vie peut faire que très vite, on est cabossé, on perd confiance en soi, on nous a dit qu'on ne peut pas... En réalité, on a tous un trésor extraordinaire en nous. Pas les mêmes. Tu ne vas pas être champion du monde de ski ou ci ou ça. Peut-être. En tout cas, pas moi. Ça, c'est sûr. Mais bon, dans plein de domaines, on peut faire des trucs incroyables. Je crois que ce qui est essentiel, c'est avoir ce niveau d'envie et de confiance en soi qui fait que on se dit, oh là là, ce potentiel, il va falloir que j'aille le chercher. Et toi, comme animateur, recruteur, etc., il faut que tu repères ces talents-là et après que tu fasses en sorte qu'ils aient tous les moyens d'aller chercher là, la branche la plus haute, de monter le plus haut possible. C'est ça qui me paraît absolument essentiel. Et si tu lui prémâches trop le truc, on n'y est pas.
Si tu as aimé ce podcast et ce type de contenu avec des entrepreneurs au parcours incroyable, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, on a créé une vidéo qui recense les 6 clés indispensables pour scaler ton business.
Donc aujourd'hui, j'ai développé tout un set de techniques pour aider les entrepreneurs que j'accompagne à bien sûr garder la foi, conserver cet optimisme de « je vais y arriver, je peux le faire, j'y crois », mais en même temps, être capable de manière, ce qu'on pourrait appeler un pragmatisme pessimiste ou le pessimiste pragmatique, c'est-à-dire voir les obstacles et les anticiper de manière le plus calme, centrée et stratégique possible. Charlie Munger a ce qu'il appelle la technique de l'inversion. La technique de l'inversion, c'est de faire presque contre-intuitivement l'opposé que de visualiser que ça va bien se passer.
Si tu veux découvrir ces 6 clés contre-intuitives qui vont te permettre de booster ton business, regarde la vidéo gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.